idée fondamentale d'une culture de commerçants. On va maintenant se former de différents côtés la culture d'une société dont le commerce est l'âme tout aussi bien que le combat singulier était l'âme de la culture chez les anciens Grecs, la guerre, la victoire et le droit chez les Romains. Celui qui s'adonne au commerce s'entend à tout taxer sans le produire, à le taxer d'après le besoin du consommateur et non d'après son besoin personnel. Chez lui, la question des questions, c'est de savoir quelle personne et combien de personnes consomment cela. Il emploie donc, dès lors, instinctivement et sans cesse, ce type de la taxation. À propos de tout, donc aussi à propos des productions des arts et des sciences, des penseurs, des savants, des artistes, des hommes d'État, des peuples, des partis, et même d'époque tout entière. Il s'informe à propos de tout ce qui se crée, de l'offre et de la demande, afin de fixer pour lui-même la valeur d'une chose. Ceci, érigé en principe de toute une culture, étudié depuis l'illimité jusqu'au plus subtil, et imposé à toute espèce de vouloir et de savoir, sera la fierté de vous autres, hommes du prochain siècle. Si les prophètes de la classe commerçante ont raison de le mettre en votre possession, mais j'ai peu de foi en ces prophètes, credat judeus appella, pour parler avec Horace. La critique des pères. Pourquoi supporte-t-on maintenant déjà la vérité sur le passé le plus récent ? Parce qu'il existe toujours une nouvelle génération qui se sent en contradiction avec ce passé et qui jouit, dans cette critique, des prémices du sentiment de puissance. Autrefois, la génération nouvelle voulait au contraire se fonder sur l'ancienne et elle commençait à avoir conscience d'elle-même, non seulement en acceptant les opinions des pères, mais en les défendant plus sévèrement encore si cela était possible. Critiquer l'autorité paternelle était autrefois un vice. Maintenant, les jeunes idéalistes commencent par là. Apprendre la solitude. Oh, pauvre air, vous qui habitez les grandes villes de la politique mondiale. Jeune homme très doué, martyrisé par la vanité, vous considérez que c'est votre devoir de dire votre mot dans tous les événements, car il se passe toujours quelque chose. Vous croyez que lorsque vous avez fait ainsi de la poussière et du bruit, vous êtes le carrosse de l'histoire. Vous écoutez toujours et vous attendez sans cesse le moment où vous pourrez jeter votre parole au public, et vous perdez ainsi toute productivité véritable. Quel que soit votre désir des grandes œuvres, le profond silence de l'incubation ne vient pas jusqu'à vous. L'événement du jour vous chasse devant lui comme de la paille légère, tandis que vous avez l'illusion de chasser l'événement, pauvre diable. Lorsque l'on veut être un héros sur la scène, il ne faut pas songer à jouer le cœur. On ne doit même pas savoir comment on fait chorus. Ceux qui sucent quotidiennement. Ces jeunes gens ne manquent ni de caractère, ni de disposition, ni de zèle. Mais on ne leur a jamais laissé le temps de se donner une direction à eux-mêmes, les habituant au contraire, dès leur plus jeune âge, à recevoir une direction. Autrefois, lorsqu'ils étaient mûrs pour être envoyés dans le désert, on en agissait autrement avec eux. On les utilisait, on les dérobait à eux-mêmes, on les élevait à être usés quotidiennement, on leur faisait de cela un devoir et un principe. Et maintenant, ils ne veulent plus s'en passer, ils ne veulent pas qu'il en soit autrement. Mais à ces pauvres bêtes de trait, il ne faut pas refuser leurs vacances. Ainsi nomme-t-on cet idéal forcé d'un siècle surmené, des vacances où l'on peut, une fois paresse à cœur joie, être stupide et enfantin. Aussi peu d'État que possible. Toutes les conditions politiques et sociales ne valent pas que ce soit justement les esprits les plus doués qui aient le droit de s'en occuper et qui y soient forcés. Un tel gaspillage des esprits est en somme plus grave qu'un état de misère. La politique est le champ de travail pour des cerveaux plus médiocres, et ce champ de travail ne devrait pas être ouvert à d'autres. Que plutôt encore la machine s'en aille en morceaux. Mais telles que les choses se présentent aujourd'hui, où non seulement tous croient devoir être informés quotidiennement des choses politiques, mais où chacun veut encore y être actif à tout instant et abandonne pour cela son propre travail, elles sont une grande et ridicule folie. On paye la sécurité publique beaucoup trop cher à ce prix. Et ce qu'il y a de plus fou, on aboutit de la sorte au contraire de la sécurité publique, ainsi que notre excellent siècle est en train de le démontrer. Comme si cela n'avait jamais été fait. Donner à la société la sécurité contre les voleurs et contre le feu, la rendre infiniment commode pour toute espèce de commerce et de relation, et transformer l'État en providence, au bon et au mauvais sens. Ce sont là des buts inférieurs, médiocres et nullement indispensables, à quoi l'on ne devait pas viser avec les moyens et les instruments les plus élevés qu'il y ait. Les moyens que l'on devait réserver justement aux fins supérieures les plus rares. Notre époque, bien qu'elle parle beaucoup d'économie, est bien gaspilleuse. Elle gaspille ce qu'il y a de plus précieux, l'esprit. Les guerres. Les grandes guerres contemporaines sont le résultat des études historiques. Gouverner. Les uns gouvernent par joie de gouverner, les autres pour ne pas eux-mêmes être gouvernés. Entre deux mots, celui-ci n'est pas le moindre. La logique grossière. On dit d'un homme avec le plus profond respect, c'est un caractère. Oui, s'il est allé une logique grossière, une logique qui saute aux yeux les moins clairvoyants. Mais dès qu'il s'agit d'un esprit plus subtil et plus profond, conséquent à sa manière, la manière supérieure, les spectateurs nient l'existence du caractère. C'est pourquoi les hommes d'État rusés jouent généralement leur comédie sous le couvert de la conséquence grossière.